90 000 ans, l'homme était une espèce nomade voguant sur les continents sans vraiment s'attacher aux lieux qu'il traversait. Les choses changent au 9e siècle avant Jésus-Christ avec les premières traces de sédentarisation apparues dans le croissant fertile. C'est l'apparition des premières villes comme celle de Çatalhöyük en Turquie où il y a plus de 900 ans des chasseurs-cueilleurs se réunissent et la créent. Plus tard, en moins 3300, les premières écritures arrivent en Égypte, entre autres, et elles sont logiquement créées de manière utilitaire par les souverains. Ces premières villes ont besoin de faire l'inventaire de leurs marchandises et de leurs biens sous forme de pictogrammes dans un premier temps. Ils évolueront vers une écriture cunéiforme rapidement. Les premières traces de cette dernière sont retrouvées à Ur, en Mésopotamie, en moins 3000. Pionniers dans les premières écritures, les Égyptiens inventeront au même moment le premier alphabet connu avec les hiéroglyphes. L'apparition de l'écriture est un grand tournant de l'histoire humaine et marque la fin de la préhistoire. Les premiers ouvrages de l'humanité sont aussi retrouvés en Égypte. Le plus célèbre a été ramené en 1844 par Émile Prisdaven, un papyrus de 7 mètres de long daté d'environ moins 1800. Peu pratique, ce support est vite remplacé au 2e siècle par le parchemin qui est plus souple et sur lequel on peut écrire sur les deux faces. La formation de livres tels qu'on les connaît commence à cette époque puisque certains décident de plier ces parchemins et de les coudre pour créer des codex. C'est les premières traces de ce que l'on nomme désormais les manuscrits. Le monde sera ensuite bouleversé par l'arrivée de l'imprimerie au 15e siècle, inventée par Gutenberg, une invention révolutionnaire sur le papier, qui est en réalité un assemblage de techniques déjà existantes. Cela n'enlève rien au génie du personnage qui choisit de réunir ces différents procédés, tels que l'assemblage de mots séparés, déjà utilisés par les Romains, la presse utilisée à l'époque pour le raisin, les alliages au plomb présents dans l'artillerie, les moules à caractère utilisés à des fins d'orfèvre, et les poissons en lettres qui ont été multipliés à l'occasion mais appartenant à l'origine aux fondeurs de pots d'étain. Il assemble ces pièces et les optimise. Viendra ensuite au 20e siècle la numérisation de la littérature qui, comme pour l'imprimerie, bouleversera le mode de consommation et le rapport à la lecture. Si je vous conte cette histoire aujourd'hui, c'est qu'elle est en plein cœur de la programmation d'un lieu historique angevin, le château d'Angers. Depuis samedi, c'est l'exposition du manuscrit à la BD, nouveau trésor des bibliothèques des Pays de la Loire qui s'invite au cœur de l'édifice. Une initiative qui a pour origine le directeur des bibliothèques d'Angers, c'est ce que nous explique Catherine Leroy, chef du service culturel du château d'Angers par téléphone.
C'est le directeur des bibliothèques d'Angers, Marc-Édouard Gauthier, qui est venu nous trouver au château en nous expliquant qu'il cherchait un lieu pour présenter les acquisitions qui avaient été permises par ce qu'on appelle le Fonds Régional d'Acquisition des Bibliothèques, donc les œuvres, ouvrages qui ont été achetés grâce à ce fonds. Ça peut être des livres d'artistes, ça peut être des ouvrages qui viennent compléter un fonds qu'ils ont déjà. Je pense par exemple à Jules Verne à Nantes.
6 salles pour 6 thèmes chronologiquement historiques, excepté pour la première salle. On explore différentes époques illustrées par des techniques fondamentales et des œuvres historiques, mais aussi actuelles.
On a une première salle qui explique un peu les techniques des livres, qui parle de la reliure, qui parle de l'impression, qui parle du papier. Ensuite, on a une deuxième salle qui est consacrée aux enluminures médiévales et aux livres d'or du Moyen-Âge. On aborde ensuite les impressions, les premiers livres imprimés et les humanistes. On a une grande partie sur Jules Verne aussi, avec des vues stéréoscopiques, c'est très très intéressant, et des affiches de cinéma, ça va vous rappeler votre jeunesse avec les films 20 milieux sous les mers, Michel Strogoff, des choses que vous avez dû voir ou lire quand vous étiez plus jeune, ou peut-être maintenant d'ailleurs. Et une partie sur les surréalistes aussi et l'école de Rochefort, les avant-gardes littéraires. Et pour terminer, une salle qui est consacrée aux illustrateurs, parmi lesquels Benjamin Rabier ou encore Mercier, qui sont donc des noms très connus en termes d'illustration. Et puis aussi des bédéistes comme par exemple Étienne Davodeau.
La volonté de cette exposition s'inscrit aussi dans une logique tout public, montrer à la jeunesse que le projet est aussi pensé pour eux, de par la salle 6 qui présente des albums jeunesse et des bandes dessinées donc, mais ce n'est pas tout.
On essaie toujours de tirer l'exposition même historique vers un sujet très contemporain. Je pense à une autre exposition qu'on avait fait sur la défense au Moyen-Âge, sur l'armée du Moyen-Âge, et on avait également expliqué comment les casques du XXe siècle étaient des réminiscences des casques du Moyen-Âge, ou encore l'expo sur les 5 guerriers, où on avait montré que toutes les figures actuelles de Marvel et encore de CNCA, etc., étaient des émanations de ces cinq guerriers du Moyen-Âge. Un propos très intéressant pour nous, d'essayer de montrer aux visiteurs d'aujourd'hui que ce qu'ils connaissent vient en fait de plus loin qu'ils ne le soupçonnent.
Cette exposition est encore là pendant un certain temps puisqu'elle restera ouverte jusqu'au 12 mai 2024 au château d'Angers. Alors foncez.